Je propose un programme va-et-vient basé sur l'honnêteté et donc l'indécision.
CO2, mon amour.
Pour l'écologie, je voudrais faire en sorte qu'on diffuse moins des reportages animaliers sur les espèces rares, comme ça on est moins triste quand elles disparaissent. Vous avez quoi comme idée sur l'écologie, vous ? On prenne plus de douches, moins de bains ? Oh, bah c'est original.
Denis Chessou.
Après mon passage, les gens diront, avec lui, on était rassurés et surtout on ne s'ennuyait pas.
Et ben voilà, vous avez le programme de Palmade. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir. CO2, mon amour. Donc, de la nature qui chuchote à vos oreilles avec Benjamin Tronça, la technique aujourd'hui. Et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Bestugia qui réalise l'émission. Ah bah non, c'est trop, on a beaucoup trop parlé de nous, le climat, l'environnement, la nature durant cette campagne. Et on sent bien que nos deux candidats sont au taquet sur le sujet, même si on parle de planification écologique depuis hier et d'une fête de la nature. Ah bah tiens, elle existe déjà ça. Bah c'est pas grave, hein, ça en fera deux. Les jeunes se posent peu la question de la retraite à 64 ans, mais plutôt, dans 45 ans, quelle sera cette terre ? Va-t-on respirer dans un monde vivable, habitable, brûlé au cœur ou en lisière, avec de l'eau qui manquera au début du printemps ? Bref, que des sujets à la marge. Normal qu'ils défilent, qu'ils bloquent les boulevards pollués de Paris et d'ailleurs. Extinction de la vie, ils n'en veulent pas. Oui, on parle trop d'environnement, des 700 km² de terre bétonnée par an, en France, de souffrances animales, d'agricultures différentes, de la place des arbres. On parle trop d'environnement, des agrocarburants, des gros méthaniseurs, bassines immenses, des centrales nucléaires qui manqueront d'eau en bord des fleuves, de l'accès au sable, au phosphore. Tout ceci ne posera aucun problème puisque la voiture électrique nous sauvera. Non, on parle trop de ces sujets, il y en a marre. On ne parle pas assez, tenez par exemple des chasseurs, espèce emblématique en voie de disparition, fer de lance de l'écologie visionnaire, injustement malmené et jamais courtisé par vos politiques qui veulent tous les glisser dans leur gypsière. Ah non, non, on n'en parle pas assez. 22 avril 1970, création de ma journée à moi, la Terre. C'était courageux. 10 ans plus tard, le rouleau destructeur du vivant et écrabouilleur de climat allait me passer dessus à la vitesse supérieure. Vous entriez en mondialisation, en dérégulation maximum, grâce à Reagan, Thatcher, c'était l'officialisation du renard dans le poulailler de la prise du pouvoir de la finance sur le monde. Et Dieu sait si j'aime les renards, alliés des agriculteurs, bouffeurs de campagnols et d'animaux porteurs de maladies. Comment vont-ils s'en sortir, ces humains qui savent mais ne veulent pas voir, ne pas anticiper, se dit Maître Goupil. Renoncement collectif, on se tient chaud dans la même cocotte ou changement mondial de cap, la tête dans le mur. Eh ben, nous voilà 50 ans après le rapport Meadows, où les limites de la croissance étaient clairement établies. Nous voilà dans un beau sac de nœuds de contradictions existentielles. L'atmosphère sans le gaz de schiste, la survie des espèces et le vent de l'histoire nous renvoient dans les yeux des escarbilles charbonneuses d'avant-guerre. Alors, réduire la voilure de la machine en surchauffe avec 6% de moins quand même de CO2 sans amour, et tous les ans, c'est ça le tarif. Sobriété, le vilain mot, interdit, pas MEDEF compatible. Alors qu'on a claqué ce que nous offrait la planète en lui perforant le ventre, sans jamais compter. Alors ça c'était bien, ça c'était normal. Ce n'était pas punitif pour l'avenir de nos jeunes. Bonne nouvelle quand même. Tout le monde est d'accord pour apprendre à nos enfants la cigale et la fourmi, parce que la fontaine, c'est le patrimoine. Mais si la fontaine se tarissait. Et pourtant, qui fait le lien entre cette fable et notre joyeuse décadence consumériste contemporaine ? Ah oui, on y est, le mot pénurie refait surface. À force de nous glisser sous le tapis, moi, le climat, la nature, l'environnement, eh bien, dansez maintenant. On parle trop de ces sujets dans cette campagne, je vous dis. Dimanche de Pâques, donc, y aura-t-il résurrection de la sagesse et de la mesure ? Mais peut-être, on a des grands défis, on peut en tout cas en résoudre certains. Une marche du temps différente, ce que je vous propose, entre dunes et marais, dans le Marais breton, peu connu, on est en baie de Bourgneuf. Alors c'est beau, ça fait du bien, c'est ensoleillé comme aujourd'hui, c'est salé avec plein d'oiseaux, soleil dans le ciel. Allez, suivez-nous, c'est parti, c'est CO2 mon amour.
Ni
ale ne
biringa ma, solo irite ko ay ko kan defo ila kamere kon fo ko ay ko kan defo ila nindo hili la bate an nan to la kajamana mara bringamba
L'espace monde que l'on aime aussi avec cette Afrique et donc ces 57 pays, c'était Oumou Sangaré. Nous partons à présent entre Vendée et un peu de Loire-Atlantique.
Ça commence un peu à sentir l'immortel des dunes, là. Un peu cette odeur de curry, d'épices, quand on traverse la dune grise. Voilà, ce sera plus fort dans quelques mois, hein, quand tout sera en fleurs, mais... Vraiment agréable cette ambiance. En une dizaine de kilomètres, on va passer du marais doux, donc qui est alimenté par l'eau du bassin versant, au marais salé, alimenté par l'eau de mer. Et puis ensuite, on peut traverser la forêt qui a été plantée sur du sable, hein, la dune, pour arriver à la plage. Ou si on prend notre axe, ben, on va arriver sur cette grande vasière en fait, qui est à marée basse. Est présente et qui est la baie de Bourgneuf, donc vraiment une énorme diversité de paysages et de fait de biodiversité, puisque cette mosaïque permet d'accueillir énormément d'oiseaux, énormément de plantes sur cette grande zone humide de à peu près 55 000 hectares que constitue le site, quoi.
Entre deux stations balnéaires de béton heureux, 55 000 hectares de paix où le vivant a encore sa chance. Alors en fait, c'est un lieu qui est peu connu hein, de nos compatriotes, un lieu qui la ramène pas d'ailleurs. Saint-Jean-de-Monts n'est pas loin, en Vendée, et de jolies îles comme Noirmoutier. On est dans cette baie de Bourgneuf avec le Marais Breton, qui est un des plus vastes marais français. Site Natura 2000, classé Ramsar, donc... zone humide de prestige, avec un travail volontaire des communes pour entretenir ces 55 000 hectares dédiés à l'élevage extensif de vaches maraîchines, aux marais salants, aux oiseaux, dont le hibou des marais en reviendra très rare en France. Alors la commune de Le Perrier, avec Rosiane Godefroy, je la cite parce que vraiment sa mairesse est très active, Rosiane Godefroy, qui porte cet espace vraiment à cœur, cet espace Natura 2000, et qui se bat pour la qualité de l'eau qui est toujours menacée. Ça va pas encore de soi dans notre pays. C'est donc un lieu magique qui concilie patrimoine culturel et naturel. Les deux sont liés par leur histoire et ce qu'on observe aujourd'hui est unique dans sa forme, dans sa diversité, le maître mot et qui prépare donc cette nature de demain. Julie Aissaguer, que vous avez entendu, Julie Aissaguer, chargée de mission Natura 2000 au syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Jean-Guy Robin va faire son apparition, responsable scientifique et technique de l'écomusée de Daviau. Vraiment, je vous invite à le découvrir, et puis aussi de la communauté de communes. Et ben voilà, donc je vous le disais, on est une grande partie en Vendée, un petit peu en Loire-Atlantique. Là, on va rester en Vendée.
Le marais derrière est en dessous du niveau zéro et donc c'est la dune, notamment la dune grise et puis la dune boisée qui a été plantée dans les années 1800-1810 qui permettent de protéger en fait derrière le marais. On l'a expérimenté ici à Xintia où finalement les brèches elles ont été dans les digues hein, construites par l'homme quand la dune elle a bien résisté, notamment sur les secteurs où on avait laissé la végétation se développer au niveau de la plage.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il vaut mieux faire confiance à cette nature, à cette dune, plutôt qu'au dit, quoi, qu'il faut réparer en permanence, non ?
En tout cas, on peut faire confiance à la dune, il faut accompagner la dynamique naturelle de stockage de sable, etc. Mais oui, on est en sécurité derrière ce cordon dunaire qui fait plusieurs kilomètres en fait, par endroit, hein, et qui est costaud, ouais, qui résiste aux tempêtes.
Un homme de l'environnement pour la communauté de communes, c'est Jean-Guy Robin, là, vous êtes en train de jumeler, là, Jean-Guy, donc...
Je suis en train de regarder les goélands qui sont sur le banc de sable, juste en face de la Grande Côte. C'est le début du printemps, et puis on est aussi en train de regarder aussi si les gravelots que j'ai interrompus ne sont pas en train de s'installer sur la plage, parce que ils font partie de cet écosystème qu'on essaye de préserver. Et entre autres, c'est le travail de Julie, pour le site Natura 2000, de sauvegarder ces espèces qui sont un peu indicatrices de ce milieu-là.
Alors, Julie Aïssaguer, en fait... Et quel est votre travail? Quand on dit chargé de mission, vous rencontrez donc énormément de gens et vous essayez quoi là?
Mon travail, c'est qu'il y a un maximum d'acteurs qui s'intéressent à la biodiversité. Essayer de faire travailler les gens les uns avec les autres en fait dans un objectif commun. C'est diffuser un peu d'amour, faire en sorte que tout le monde s'entende et collabore, qu'on puisse mettre de côté nos différences sur des petits sujets pour vraiment avancer pour la nature tous ensemble.
Comment fait-on avec un système dominant qui est quand même une agriculture qui est productiviste, avec donc cette protection de la biodiversité qui est incontournable?
Alors nous, on a la chance sur le marais d'avoir des sols sur lesquels on ne pourrait pas faire du maïs en fait. On a de l'argile qui est ultra séchant en été. Les agriculteurs appellent le marais le paillasson en été, parce qu'on se retrouve avec de l'herbe jaune très vite. Et donc c'est vraiment la prairie naturelle qui est le meilleur type de production qu'on peut avoir. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même essayer de travailler avec de l'élevage extensif, donc pas trop d'animaux, et puis d'avoir des bonnes pratiques. Et on discute en fait, c'est par le dialogue, des entretiens avec les agriculteurs, et puis aller sur leur terrain, leur montrer les espèces. Et en fait, ils sont assez demandeurs hein, de découvrir, de comprendre. Et on a même maintenant des éleveurs en fait qui nous disent l'élevage ça fait partie du patrimoine du marais, mais les oiseaux aussi, et moi je veux contribuer et aller plus loin. Et donc à Beauvoir-sur-Mer, là par exemple, on a un éleveur qui va créer des îlots pour les avocettes sur des bassins de marais salés. Donc ça commence à prendre. Je trouve que le coronavirus a fait un peu de bien pour ça.
Oui.
Voilà. Finalement, on a bien exploré le kilomètre autour de nous et on s'y intéresse de plus près, je trouve.
Julie, vous avez donc vu les choses évoluer quand même là aussi avec ce choc du Covid ?
Oui, j'ai vu les choses évoluer, les nouvelles générations d'agriculteurs aussi qui nous disent que maintenant dans les formations, on leur parle de biodiversité, on leur parle d'agriculture biologique, donc c'est une autre porte d'entrée. Et puis je trouve aussi que les élus, là, depuis les dernières élections, s'intéressent vraiment de près à la biodiversité. Il y a une demande hein, de la société, des habitants.
Tiens, là on marche sur le sable, mais... Petite cuvette là.
Ah oui, il faut faire attention là parce qu'on est à côté d'un nid de gravelot à collier interrompu. Donc c'est un petit oiseau en fait qui niche en haut de plage, qui s'embête pas trop sur son nid. Hein. Il fait une petite cuvette et puis il va pondre.
C'est sommaire, mais ça va. Ouais.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment faire attention. Il va pondre à peu près 3-4 œufs de la couleur du sable. Ça peut être une bonne stratégie, mais après on le voit pas très bien. Et puis après, les poussins vont aller se nourrir dans la laisse de mer, etc. Et on voit pas souvent les poussins, on voit pas souvent les œufs, mais on peut voir les adultes en fait qui miment des blessures, des ailes cassées pour essayer de nous éloigner et nous déporter un peu plus vers la mer. Ça, en général, il faut pas être dupe. Ça veut dire que le nid est beaucoup plus haut au niveau de la dune. Et c'est un oiseau qui est grandement menacé par le nettoyage mécanique, les chiens qui divaguent sur les plages aussi, qui peuvent détruire des nichés. Et sur le site Natura 2000, on a une quarantaine de couples. Et avec ça, on est peut-être le plus gros site de la façade atlantique. 40 couples.
Donc c'est encore fragile, quoi. Donc.
Très fragile, voilà. Donc on travaille beaucoup avec les communes sur justement minimiser le nettoyage, laisser le maximum d'algues et les plages un peu tranquilles, en fait, pour que cet oiseau puisse venir nicher. Il y a suffisamment de kilomètres de plage pour que tout le monde y trouve son compte, les vacanciers sur des plages un peu plus nettoyées quand on n'aime pas les algues, et la nature sur les autres secteurs comme ici à la Grande Côte.
Vous n'êtes pas une fanat du nettoyage, on va dire, mécanique, parce que, alors évidemment, dans de grandes séries, il faut faire propre pour le vacancier qui ne connaît pas grand-chose à la nature, mais ça fait quand même sacrément des dégâts.
Ça fait des dégâts, ça casse l'écosystème en fait. Les algues, elles vont se décomposer, elles vont permettre aux plantes de haut de plage de pousser. C'est ce qui capte le sable, c'est ce qui fixe la dune, donc c'est ce qui défend aussi les habitations dans le marais derrière. Et puis, c'est source de nourriture pour les poissons quand les algues sont reprises, pour les oiseaux. Et moi, quand je suis arrivée ici, je connaissais plutôt les plages de Méditerranée et j'étais surprise qu'il y ait autant d'algues. Et maintenant, quand je vais sur une plage où il n'y a pas d'algues, ça me choque. Donc je pense que c'est vraiment une question de perspective et de se redire, non, les algues, c'est pas ça, là, en fait. C'est la nature. Elles sont là, elles ont toujours été là, et puis on en a besoin.
À marée descendante, deux possibilités. Contempler le littoral ou le parcourir et apprendre à le connaître. Vincent et Julie sont deux guides nature professionnels qui connaissent les algues et vous invitent à leur découvrir.
Il faut savoir qu'au niveau des algues, on en a répertorié déjà aujourd'hui 35 000 espèces. Qui l'a goûté ? Là, manger comme ça, il n'y a vraiment aucun souci.
On en consomme depuis très longtemps, en fait. Surtout les Asiatiques, ils en consomment presque 100 grammes par jour. Nous, les Français, Européens, on en consomme 1 gramme. Mais vraiment, dans l'alimentation de tous les jours, depuis une petite décennie, là, on commence à s'y intéresser. Et les algues sont riches en fer, en iode. Si on a des carences dans ces domaines-là, ça peut être un aliment qui peut être alternatif.
On a quitté la mer, on a quitté la Grande Côte, et là on se retrouve dans ce marais. Alors Julie, quand on parle de marais doux, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça veut dire que les fossés qui nous entourent sont en eau douce. Voilà, le marais breton en fait c'est à peu près 7000 km de fossés. Donc des gros qui prennent l'eau à la mer ou qui ramènent l'eau du bassin versant, puis après des fossés secondaires, et puis ça finit par des petits fossés tertiaires là qu'on a tout autour de nous. Et ceux-là sont en eau douce, on le voit en fait à la végétation. Si on a de la salicorne, on est dans le marais salé. Et si on a de la roselière, on est dans le marais doux.
Alors on a cette roselière là aussi, pouponnière pour les oiseaux et puis plein d'autres espèces, Jean-Guy.
Alors la roselière, c'est un endroit où on peut trouver pas mal de passereaux paludicoles, des passereaux qui nichent sur ces roselières. Mais après aussi sur les prairies, on entend là le chevalier gambette qui est en train de crier, qui est en train de s'installer sur les prairies. On va pouvoir trouver la barge à queue noire, qui est un oiseau qui va arriver aussi maintenant sur le marais breton. C'est vraiment un milieu qui est exceptionnel. Et ce qui est important sur ce milieu, c'est les prairies humides. C'est les endroits où on garde un petit peu d'eau sur les prairies. On a une végétation particulière.
Nous avons deux ânes, il y a peut-être une ânesse d'ailleurs, ça je ne le vois
deux
pas.
Ânesses, oui.
Deux ânesses. Et puis nous avons nos maraîchines, donc nos vaches, on va dire, quand même du cru. Quoi.
Alors c'est une des emblèmes de l'écomusée, parce que les deux premières maraîchines sont arrivées à l'écomusée du Davio. Et aujourd'hui, on en a plusieurs centaines sur l'ensemble du marais breton, avec des agriculteurs qui sont motivés par cette vache et par la biodiversité qui va autour.
Jean-Guy, là, on est à la bonne distance quand même de ces avocettes. C'est vous qui les avez fait revenir ou...
Et c'est mon élevage d'avocettes. Alors, il y en a plusieurs dans le lot qui sont bagués. C'est des individus que j'ai bagués poussins ici. Il y en a une, elle a plus de 20 ans. Elle revient chaque année. Elle vient juste d'arriver, là. Ben, elles vont nicher sur les petits îlots qu'on a fait juste à côté de l'observatoire. Et on a vraiment une belle ambiance là en ce début de printemps avec tous ces oiseaux. Alors, il y a une partie qui vient de la baie de Bourdeuf et puis l'autre partie qui arrive du Portugal. Il y a deux stratégies chez la Vocette. Celles qui migrent et celles qui sont sédentaires.
Les sédentaires, c'est parce que le réchauffement a joué son rôle ou bien...
C'est une option qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celles qui sont sédentaires, elles dépensent moins d'énergie en migration. Comme les hivers sont plutôt doux, ça match et l'hiver, elles peuvent rester là.
Qu'est-ce qu'elles se racontent là ? C'est quoi ? C'est des cris territoriaux ? C'est des cris de...
Alors, c'est un peu l'excitation du printemps. Et tout le monde arrive, chacun cherche l'endroit où il va mettre ses œufs. Et puis, l'hormone est au maximum et les mâles et les femelles sont en train de former leur couple. Ah oui. Et puis, un petit peu de bataille aussi. Hein. On les voit, elles sont en train de hocher de la tête. Les mâles et les femelles se poursuivent. Et puis, il y a quelques-unes qui sont en train de faire leur nid.
Un oiseau, Jean-Guy Robin, quand même très emblématique et quand même assez rare. Il est en train de passer, là.
Ah oui, alors c'est le hibou des marais. On a la chance d'en avoir un juste devant nous.
Le hibou des marais.
On reconnaît son vol un peu papillonnant. Donc c'est aussi une emblème du marais breton. Et c'est vraiment un plaisir de le voir chaque année qui niche dans le marais, dans ces grandes prairies humides.
Oui, mais on ne le trouve pas justement partout en France. Hein, celui-là.
Alors c'est une rareté en tant que nicheur. Il y a quelques dizaines de couples en France et il y a plus de 30 couples en marais breton.
Ils bouffent quoi? Du campagnol?
Alors son régime alimentaire est composé de campagnol principalement. Et on a dans le marais la plus grosse densité de hibou des marais de France.
Il a un très joli vol hein, celui-là.
Un peu, on le reconnaît bien, son masque noir aussi de loin. Et puis il y a 2,5 sur les ailes, et puis son vol très papillonnant. Il a des ailes très grandes par rapport à la taille de son corps, et souvent il les tape lorsqu'il est en reproduction. Il fait un petit bruit comme ça.
D'ailleurs, ça l'intéresse.
Ah oui, peut-être, oui. Il nous a regardé.
Ouais, ouais.
On va rejoindre Jean-Noël, qui est notre saunier naturaliste de l'île de Noirmoutier.
Jean-Noël Pitot.
Jean-Noël Pitot, voilà, ouais. Qui peut parler avec passion de l'armoise maritime, qui est une petite plante qu'on trouve sur les berges des marais salants et qui sent très bon quand on les frite entre ses doigts, qui est passionné des avocettes et puis ouais. Qui a beaucoup œuvré sur le territoire pour qu'on devienne site Ramsar. Donc qu'on soit classé zone humide d'importance internationale, voilà. Il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir les élus, il est allé voir les acteurs du territoire, les sauniers, pour les convaincre que les marais de l'île de Noirmoutier, le marais breton, valaient vraiment le coup sur le plan de la biodiversité et qu'il fallait qu'on ait cette reconnaissance mondiale.
Et alors ça va pas de soi quand même, hein. C'est vrai que là aussi c'est un sport de combat pour convaincre tout ce petit monde-là.
Bah ça va pas de soi, après c'est un label qui n'a pas de contraintes en fait, ça reconnaît vraiment le travail de plusieurs générations pour protéger les zones humides. Et puis c'était vraiment voilà, une façon de valoriser le travail ancestral des sauniers, le rôle des éleveurs pour la préservation de la biodiversité. Donc le territoire n'a pas été trop long à convaincre. Après, le parcours pour être labellisé, ça c'est autre chose. Ouais. Ça nous a pris 4 ans.
Merci Julie Aissaguer. Donc avant de grimper sur le dos de Noirmoutier, Mickey 3D, elle a 20 ans, elle n'a pas pris une ride.
Moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire.
C'est pas mal, on a quand même deux poumons, donc on va essayer de respirer. C'est pas évidemment comme l'air de Shanghai.
C'est une génération qui fume plus. Hein. Une génération de diététiciens, de juges, d'écolos. Font chier cette génération.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Il n'est pas impossible de dire que Arditi le pense véritablement. Alors donc on va donc poursuivre ce voyage. Attenez, puisque c'est Pâques, il y a une opération qui s'appelle Attention, on a marché sur des œufs. Vous l'avez entendu dans la première partie du reportage. Bah, effectivement, vous avez des oiseaux comme les gravelots bah, qui nichent à terre. Donc c'est une opération qui a été lancée par le Conservatoire du Littoral, par l'OFB, par l'ONF, la LPO, par Rivage de France. Voilà, donc avec et puis toutes les associations. Donc pour dire attention, vous inquiétez pas, ramassez pas un oiseau blessé, pas du tout. Simplement, il n'a pas du tout envie de vous voir. On n'a pas forcément les bons réflexes. Allez, on va maintenant, donc toujours dans ce marais breton, du côté de Noirmoutier pour notre opération Passe-moi le sel. Bonjour, cher Jean-Noël Pitot.
Bonjour, Denis.
Alors là, je vois que vous êtes avec... Alors, je vais pas dire... Enfin, c'est un immense râteau, mais c'est pas le bon mot, parce qu'il n'y a pas de dents.
Ouais, donc, c'est ça, c'est...
Face à ce marais salant. Alors, on va quand même poser le décor. Là, on est sur la partie nord-ouest de Noirmoutier.
Ouais, c'est ça, on est derrière la plage de Luzéronde, sur l'île de Noirmoutier, sur le marais de la Filbardière.
La Filbardière.
Ouais.
Comment elle s'appelle, donc,
cette... Alors, cet outil, là, c'est l'étel. Voilà, en fait, donc une grande raclette avec une planche en bois qui est biseautée d'un côté, qui va servir à pousser. L'autre côté, c'est un côté plat qui va servir à tirer la vase. Et on l'utilise pour nettoyer le marais et puis pour récolter le sel.
Le principe, ça va être entre le gros sel, le sel le plus fin.
Donc là, on est en pleine préparation des marais salants. Donc pour l'instant... on enlève la vase, là il n'y a pas le sel. En gros, la récolte va arriver à peu près à
l'été.
Au mieux, on va dire la mi-mai. En général, c'est plutôt début juin. Début juin, les premiers cristaux. Donc il y a deux cristallisations. Tu as du gros sel qui va cristalliser sur le fond de l'œillet, c'est-à-dire le cristallisoire. C'est le bassin carré qui a des formes rondes, là où on va déposer le sel. Et puis une autre cristallisation qui est plus particulière, qui a se formé en fin d'après-midi, les jours où il a fait très très beau, qui s'appelle la fleur de sel, qui elle cristallise elle donc en surface, qui est récoltée en surface d'eau, donc qui touche jamais l'argile. Donc c'est la raison pour laquelle elle est si blanche.
Voilà. Et puis c'est ce côté un peu luxueux, quoi, c'est-à-dire voir de fleurs de sel.
Elle a aussi une particularité, c'est que elle n'est pas tout à fait la même composition que le gros sel. C'est-à-dire que le gros sel, on va retrouver pas mal d'oligo-éléments comme du magnésium, du potassium, alors que la fleur de sel est un peu plus riche, elle, en chlorure de sodium, ce qui fait qu'en bouche, bah, ça réagit plus, quoi.
C'est quand même un vrai savoir-faire. Quand on dit ancestral, c'est une réalité.
J'étais pas là, mais ça fait 1500 ans, quoi.
Ouais, quand même.
La mer à l'infini. Ce qu'on appelle baie de Bourgneuf est en fait l'un des principaux arcs maritimes de la côte atlantique. Mais cette baie, c'est aussi le souvenir d'une grande époque du sel, quand le port du Collet voyait au XVe siècle les navires partir chargés de cet or gris qu'on récoltait dans les marais bretons.
Alors Jean-Guy Robin, venez s'il vous plaît, parce que on parle de 1500 ans, donc c'est une vieille histoire le sel.
Le sel en marais breton a débuté à peu près au 5e siècle après Jésus-Christ. Les premières traces écrites sont de 700 après Jésus-Christ. Ce marais breton est devenu le grenier à sel de toute l'Europe. Pour conserver les aliments, on parlait d'or blanc. Oui. Les abbayes qui étaient installées autour de la baie de Bourgneuf faisaient fonctionner pas mal de marais salants. D'où le terme de baie d'ailleurs. On appelait cet espace la baïa. Et après, on a créé le terme de baie à partir de ce terme-là.
Alors attendez, ça veut dire que ce terme de baie, il est né ici?
Eh bien, il est né sur cette grande baie qu'on appelait la baïa, oui. Donc toutes les baies du monde maintenant portent le nom de notre baie de Bourgneuf.
La baïa, c'était l'abbaye.
Oui.
Et qui est devenue donc la baie.
La baie, exactement. Et qui a essaimé un peu partout dans le monde.
Comment on fait, j'allais dire, pour avoir sa particularité, que ce soit à Guérande, ici, pour mettre en avant la qualité de votre sel? Parce qu'on sait que le sel industriel, ça y va donc aussi. Donc là, c'est une autre dimension.
Ouais, c'est une autre dimension. Tout le processus, en gros, de préparation, de récolte du marais salant, il est lié, en gros, à l'humain qui va le faire vivre, c'est-à-dire le producteur qui sera présent. Pas de machine, l'outil de récolte qui est un manche, une planche, enfin rien de plus, une pelle. Tout est ressorti à la force de nos bras, quoi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que partout où l'homme a pu faire ça, c'est-à-dire à partir du sud de la Bretagne, enfin pour nos régions, on va dire, ouais, jusque sud de la France, en gros jusqu'à Cachon, on va retrouver ça, même si ça a disparu, et même le sud de l'Europe. Là où l'homme pouvait créer du marais salant, il l'a fait.
On est obligé de tenir compte de l'écologie. Alors, on ne peut pas faire autrement ici.
Ce n'est que la météo qui va être favorable pour avancer au travail. Il va falloir attendre les bons coefficients pour commencer à faire les premières prises d'eau. Là, voilà, c'était fait la semaine dernière. Donc on est obligé d'attendre ces rythmes qui sont des rythmes naturels, quoi. On ne peut pas presser la nature. Donc ça, c'est les dépôts de vases de l'hiver qu'on repousse tous les ans. En fait, ça permet à l'eau de mer de courir sur les fonds d'argile qui sont plus intéressants parce que eux vont capter la chaleur, l'argile avec ses propriétés réfractaires. Et plus la température de l'eau sera élevée, plus l'oxygène qui est dans l'eau va avoir tendance à être instable et donc à évaporer.
Alors ce qui est formidable, c'est que vous avez les yeux qui sont posés, j'ai appris ça, donc sur les vives, c'est ça le
nom? Oui, c'est le nom des bassins qu'on pourrait appeler un peu des surfaces de chauffe ou des bassins d'évaporation. Ouais.
Voilà, donc ça, ce sont les vives. Puis vous avez aussi, vous, les yeux au ciel. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a ce balai, quoi. La ligne bleue, elle est là tout de suite.
Oui, et puis ça passe en permanence. On est sur un axe de migration important, forcément, puisqu'on est sur le littoral. Et puis on a toujours des oiseaux qui passent, qui chantent, et voilà, en général on les entend plutôt avant de les voir. C'est souvent ça, un courlis qui passe, le passage du courlis Courlieu par exemple, enfin, la saison arrive avec les oiseaux qui passent, quoi.
Vous êtes devenu ornitho parce que vous étiez saunier au départ ou...
Non, je suis devenu saunier parce que j'étais ornitho.
Ah, voilà, donc c'est l'inverse. Okay.
C'est ça. Comme de nombreux copains, je fais partie d'une association qui s'appelle Paysans de Nature. Et on a fait tous un peu le même constat. On venait du milieu de la protection de l'environnement. On travaille dans des associations de protection de l'environnement. Et c'est vrai que l'agriculture, donc du coup pour moi le marais salant, c'était un moyen formidable de préservation et de cette biodiversité, quoi.
On se retourne, on est sur un autre œillet, donc on le rappelle, hein, donc les œillets ce sont les cristallisoires, c'est là où l'opération va se passer. Bon, là on ne le voit pas forcément, mais j'imagine bien qu'il y a peut-être des individus un peu fâcheux qui arrivent là-dedans ou...
En fait, ce qui est incroyable, c'est que dans ces œillets, ces cristallisoires, là où l'eau va monter en salinité, l'eau de mer c'est 30-35 grammes de sel par litre. On va produire du sel à environ 260 grammes, voire 300. Donc on est en milieu hyper hostile, ouais, puisque c'est quasiment que du sel. Et vit dans cette eau une archée bactérie qui s'appelle l'halophile extrême, donc halophile qui aime le sel. Et cette bactérie-là va être le support de la cristallisation de notre sel. En fait, elle va accélérer le processus de cristallisation, puisque si on était en milieu stérile, en gros, en théorie, on va cristalliser aux alentours de 300 grammes. Et là, comme elle est présente, le sel va cristalliser autour de cette bactérie à environ 260.
Elle est bienfaitrice, alors.
Elle l'est tellement qu'en fait, donc cette archébactérie est une forme de vie primaire. Et on peut imaginer, alors je ne sais pas si elle l'était elle, mais que ce sont ce type de bactéries qui devaient faire partie de cette soupe primitive, en fait.
Ah, intéressant, ça.
Ouais, ça, alors, c'est...
On est sur une hypothèse, là on est
C'est-à-dire que la soupe primitive, on sait que c'est de l'eau de mer, ouais. On sait que, certainement, les particules d'argile ont participé à ça, et en fait, dans le marais, on retrouve un peu ce truc-là. Et ce qui est fou, c'est que, si on regarde tout de suite comme ça, on se dit, c'est un milieu stérile et hostile, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'en
pas
fait, en fait, il y a de la vie, même une vie primaire.
Et donc la vie primaire, c'est grâce à elle que nous sommes là, en définitive.
Ouais.
Si on fait le raccourci, c'est ça.
C'est ça.
c'est formidable parce qu'évidemment, là, on a un livre ouvert sur la vase.
Sur ce qui se passe, ouais.
Ah oui, oui, ouais. Parce qu'on a plein de traces d'oiseaux.
Voilà. Tu vois, avec le doigt derrière, c'est les grettes.
C'est laquelle, c'est la garzette, celle-là ou c'est...
Donc, ouais, les grettes garzettes. Ouais, ouais. Typique, les grettes garzettes. Avec les trois doigts comme ça, bien ouverts, avec la petite palmure, ça, c'est de la bossette.
Ça m'est arrivé de trouver des traces de loutres sur le marais. Alors là, c'est génial parce que voilà, c'est un animal qui est quand même assez rare. Et puis, tu vois qu'il est passé chez toi. En fait, tu étais là la veille, tu reviens le matin, ça veut dire qu'il y a eu un passage dans la nuit. Enfin, ça, c'est chouette, c'est extraordinaire.
Bah, merci Jean-Noël Pitot donc pour ce cours sur le sel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Une bonne saison de sel, tu vois.
Qui sont variables quand même d'une année à l'autre
ou... Ouais, c'est très très variable. En gros... ma meilleure saison, j'ai dû faire 60 tonnes. Et puis la plus mauvaise, on avait fait moins d'une tonne.
C'est quand même le grand écart. Hein.
C'est le grand écart, ouais.
Et ça lié à des conditions météo ou...
C'est-à-dire, si on a des pluies régulières, bien, on ne produit pas ou une production très faible. Quoi.
Donc pas trop d'eau douce. Quoi.
Pas trop d'eau douce pour moi. En même temps, pour la nature, il y en a besoin. Voilà.
Bien sûr, les agriculteurs, voilà. Ils en ont besoin. Donc, merci, à bientôt.
Merci. Salut, Denis.
Inutile de vous dire qu'ils ne font pas de sel de déneigement avec ça. Donc merci à Jean-Noël Pitot, à Julie Aissaguer, à Jean-Guy Robin, ainsi que pour son accueil qui était absolument génial dans ce marais de se réveiller avec des hiboux. Et bien, c'était assez extraordinaire. Merci à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Jean-Louis Deloncle qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès et Xavier Pestugia. Ben oui, je le présente toujours comme étant mon coloriste parce que c'est lui qui trouve donc toutes les musiques, toutes les subtilités que vous entendez dans ces reportages. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que je vous parlais de l'Abeille Noire, du conservatoire de l'Abeille Noire. Nous irons cette fois-ci au pied du Mont Lozère, dans le département du même nom, retrouver Ivelli. Donc de l'abeille, ça va être, je pense, un joli petit moment là aussi, donc du côté du pont de Montvert. Les podcasts, vous en avez l'habitude, aussi bien d'ailleurs les éditos de CO2 tout court, Bestiole, L'Atu du Mont-Petit-Loup, et puis Instagram et Twitter de Nichessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de dimanche.